Alors, la remarque qui va peut-être vous étonner, c'est que saint Benoît ne cite jamais le nom de la Vierge Marie dans sa règle. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'au fond, faut se rendre compte que dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, la Vierge Marie garde une place très discrète, y compris même dans la liturgie. Elle est mentionnée dans la liturgie, mais très peu. Et saint Benoît participe, au fond, n'a rien d'extraordinaire dans sa démarche, c'est-à-dire que pratiquement, pour lui, il est entendu que la Vierge Marie évidemment une place dans le mystère de la rédemption, mais elle garde une place très très discrète. Et en fait, il faudra, je pense, en particulier la réforme des siècles suivants, dont la réforme cistercienne à la fin du Xe siècle, pour voir peut-être une place plus grande, plus marquée dans la liturgie, en tous les cas, à la Vierge Marie. En ce qui concerne saint Benoît, lorsqu'il parle de l'office des vêpres, il ajoute, mais en passant très vite, que dans l'office des vêpres, on inclura ce qu'on appelle le cantique évangélique. Et là, il se réfère certainement à une coutume romaine qui l'a précédé. Ce cantique évangélique, c'est donc le fameux Magnificat, donc qui est vraiment la prière par excellence de la Vierge Marie que l'Église, partout, chante tous les jours dans son office des vêpres.
Et alors, justement, dans l'ordre cistercien, les pères cisterciens, dont saint Bernard, avaient une grande dévotion pour la Sainte Vierge.
Il y a une pieuse légende qui dit que les derniers mots du grand Salve Regina auraient été ajoutés par la ferveur de saint Bernard, « O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria », pris d'un élan soudain d'affection pour la Vierge Marie. Bon, c'est une pieuse légende. Mais le fait qu'elle existe montre quand même qu'en effet, saint Bernard, entre autres, peut-être principalement lui, dans l'ordre cistercien, vraiment a eu une très grande dévotion personnelle à la Vierge Marie, qu'il a beaucoup fait partager à travers un certain nombre de sermons. Je pense en particulier à tous ces sermons sur l'Annonciation, le temps de Noël, etc.
Dans les offices cisterciens, quelle est la particularité liée à la Sainte Vierge ?
Ce qu'on remarque justement, l'introduction de la place de la Vierge Marie dans l'office cistercien est là qui le distingue de l'office bénédictin, très proche de l'office romain en fait, c'est que à chaque grande heure de la journée, en particulier l'office du matin des Laudes qui ouvre la journée, et puis l'office des Vêpres qui clôt la journée, on a toujours dans l'office cistercien une antienne à la Vierge Marie. Dans les monastères cisterciens, et dès le tout premier, c'est-à-dire sitôt, on a toujours donné comme nom au monastère cistercien le nom de la Vierge Marie. Donc c'est elle qui est la patronne. C'est toujours Sainte Marie de ou Notre-Dame de. Ce qui n'est pas le cas pour les monastères bénédictins. Certains sont dédiés à la Vierge Marie, mais pas du tout d'une façon constante. Et puis, c'est le fait également que notre grande fête patronale à nous, cisterciens, c'est ni la fête de nos saints fondateurs, ni la fête de saint Benoît, mais c'est la grande fête du 15 août, donc l'Assomption de la Vierge Marie, comme vraiment la créature, j'allais dire, tout accomplie dans le mystère de Dieu. Donc là aussi, c'est quelque chose quand même d'assez typique qu'il faut relever. Puis peut-être le dernier trait que j'aimerais remarquer aussi, c'est le fait que dans les nouveaux noms que les frères ou les sœurs reçoivent au moment de leur prise d'habit, eh bien très souvent est inclus le nom de Marie. Je connaissais même un frère qui s'appelait tout simplement Frère Marie. Donc c'est assez étonnant pour un moine, mais enfin c'était effectivement son nom. Donc de cette manière, cette place de Marie est vraiment très très bien marquée.
Alors tous les soirs, vous chantez le Salve Regina à la fin des complis. Salve Regina, Mater Misericordiae, ce terme, est-ce que vous pouvez revenir dessus ?
Et je crois que ce terme de Mère de Miséricorde, on peut le comprendre peut-être dans deux sens principalement. Le premier, c'est que Marie est constituée, je crois, Mère de Miséricorde au pied de la croix, lorsqu'elle reçoit comme fils Jean et à travers Jean chacun de nous. Et c'est pour Marie, il faut quand même pas oublier, un immense acte de miséricorde qu'elle fait à ce moment-là, puisqu'au fond, ceux qui ont condamné à mort son fils, eh bien, c'est nous-mêmes par notre péché. Or, Marie accepte de nous prendre pour fils. Je crois que là, il y a un acte de miséricorde extraordinaire. Et puis, Marie est mère de miséricorde aussi parce qu'elle enfante celui qui est la miséricorde. Ça, c'est vraiment un thème sur lequel le pape Jean-Paul II a beaucoup insisté. Cette sorte d'identification entre le Christ lui-même et la miséricorde.
Alors, il est régulièrement remarqué que les femmes ont peut-être plus de difficultés à prier la Sainte Vierge, sans faire bien évidemment de généralité. Comment peut-on expliquer ça ?
Mais c'est vrai que la Vierge Marie, dans la vie d'un moine, apporte un élément, disons, on pourrait dire, de féminité, qui évidemment n'est pas indifférent au fait que lui, c'est un homme. Hein. Et on a dit, en effet, souvent, que les plus beaux textes sur la Vierge Marie, on les tient des hommes, tandis que les plus beaux textes sur le Christ, la plupart du temps, ce sont des mystiques femmes qui les ont écrites. Donc on voit très bien que dans la vie spirituelle, comme dans la vie humaine d'une façon plus large, c'est vrai que là, il y a un effet, j'allais dire, de complémentarité, on pourrait dire, qui joue en effet très bien. Et moi, je peux personnellement observer que c'est certainement à travers ma vie monastique que j'ai appris, au fil du temps, à découvrir vraiment cette maternité de la Vierge Marie. Et vraiment, comment dire, c'est une sorte d'un compagnonnage. Elle n'éclipse jamais son fils, elle conduit toujours à son fils, mais il y a un élément, si vous voulez, chez elle, de douceur maternelle qui ne peut pas laisser un cœur humain et peut-être masculin plus, dans un certain sens, indifférent.
Est-ce qu'il y a une façon de rentrer dans le mystère de la Sainte Vierge ?
Une des manières privilégiées, c'est la prière du rosaire. Mais alors, j'allais dire, on sait que la prière du rosaire peut devenir une prière très automatisée, très, très répétitive. Alors moi, je dois dire, à un certain moment de ma vie, c'est devenu une prière qui était lourde. Hein. D'ailleurs, j'avais remarqué, et ça m'a consolé, que Sainte Thérèse de Lisieux a dit que toute sa vie de moniale, qui était pourtant fervente, elle a eu énormément de mal avec cette prière-là. Mais la découverte que j'ai faite, et au fond, c'était un retour aux sources, c'était tout simplement de méditer chacun des mystères avec le passage d'évangile qui convient, qui correspond. Et en fait, ça a été ça, l'intuition du rosaire. Et là, je dois dire, c'est extrêmement fécond. Redécouvrir le rosaire, en fait, en revenant à la source de l'intuition qui était tout simplement de méditer les grands mystères de l'évangile. Mais avec ce regard de la Vierge Marie. C'est un élément dans mon histoire personnelle qui a été très, très important, au fond.
Pourtant, chez les cisterciens, la règle ne vous demande pas de prier le rosaire, il me semble.
Alors, on ne le prie pas de façon commune, mais c'est une prière, évidemment, qui, comme pour tout autre baptisé, évidemment, est recommandée. Mais enfin là, c'est plutôt une question personnelle. Alors, il y a des frères qui sont extrêmement attachés à cette prière, d'autres qui ont d'autres formes d'expression de leur dévotion mariale. Mais très longtemps, ce qu'on appelait les frères converts, donc avant le concile, qui ne participaient pas à l'office liturgique, proprement dit dans l'Église, eux avaient vraiment comme prière principale, c'était le rosaire. Donc il y a une longue, longue tradition du rosaire à l'intérieur de l'ordre cistercien, oui.